France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver au petit matin. Nous serons un peu partout en France dans ce 5-6. En Corse, rencontre avec un élu local dans les chroniques littorales. Une escale aussi dans le Cantal, territoire de conquête du Rassemblement National. Le parti d'extrême droite y fait une percée aux dernières élections. Ce sera notre grand reportage. Notre invitée, déjà debout, elle nous emmène dans le Finistère. Elle y est directrice académique, chargée de s'assurer en clair que tous les enfants vont à l'école et qu'ils ont un professeur face à eux. Et puis une belle sélection musicale pour se réveiller. Stéphane Escher, Aretha Franklin, Tyler the Creator dans vos oreilles, avant de retourner en classe, apprendre à penser grâce au café philo juste avant 6h. Vous avez le programme, on vous embarque, je vous accompagne jusqu'à 9h.
Inter.
Et on démarre avec le journal d'Emma Jacob. Bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Il sera désormais possible de se recueillir au jardin mémoriel du 13 novembre à Paris.
Le lieu a été inauguré hier soir par Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une cérémonie d'hommage aux 132 victimes des attentats terroristes à Paris et Saint-Denis il y a 10 ans. Des commémorations auxquelles ont assisté des rescapés, mais aussi des proches des disparus. Simon Le Baron a recueilli les impressions d'une mère dont le fils a été tué ce soir-là.
En descendant de la tribune, Nicole Mauduit dit qu'elle a été soufflée par cette cérémonie.
C'était magnifique, poignant, grandiose, il n'y a pas de mots. Le morceau de rock m'a fait vibrer parce que c'était vraiment un passionné du rock.
Cédric avait 41 ans quand il a été assassiné au Bataclan.
C'est ce qu'ils auraient voulu. Donc sûrement, si quelque part... Peut-être il a entendu.
Et pour elle, Nicole, elle pense que peut-être, après un aussi beau moment, ce ne sera plus tout à fait comme avant.
Tout en ayant beaucoup de pensées pour Cédric, mais des pensées plus apaisées.
Avant de repartir en famille à Rouxeville, dans la Manche, elle découvre, comme beaucoup de victimes et de proches, le jardin du souvenir.
C'est différent du Bataclan, ça rassemble tous les lieux, c'est pour tout le monde. Je sais pas, c'est plus émouvant, c'est moins froid. C'est un lieu vivant.
Un jardin ouvert à tous, quelle que soit leur culture, leurs origines ou leur religion.
Devant le Bataclan, c'est une plaque avec des noms. Alors que là, c'est l'espoir de la vie.
Le titre Shooting Stars de Rival Sons repris à la toute fin de cette cérémonie d'hommage par le Chœur du 13, une chorale composée de survivants et de proches de victimes des attentats. La cérémonie d'hier a aussi été marquée par le discours d'Emmanuel Macron. Tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque, a notamment déclaré le président de la République. Et puis c'était une récompense demandée par les associations de victimes. Les policiers intervenus au Bataclan le soir du 13 novembre vont être décoré de la Légion d'honneur. Nouvelle étape dans la lutte contre les plateformes asiatiques comme Chine ou Temu. Bruxelles autorise la taxation des petits colis, ceux importés en Europe d'une valeur de moins de 150 euros. La mesure adoptée hier par les ministres des Finances européens devrait entrer en vigueur dès l'année prochaine. Au Parlement européen, toujours, les attaques contre les acquis environnementaux se multiplient. Hier, la droite et l'extrême droite se sont alliés pour revoir à la baisse les obligations des grandes entreprises en matière sociale et environnementale. Seuls les groupes de plus de 5000 salariés seront encore responsables des atteintes à l'environnement ou aux droits humains commis par leurs fournisseurs étrangers.
À Marseille, le petit frère d'un militant contre le narcotrafic assassiné en plein jour hier.
Oui, dans le 4e arrondissement, alors qu'il était au volant de sa voiture, il avait 20 ans. Son grand frère, Amine Kessassi, candidat à Marseille aux dernières élections législatives, était lui-même menacé depuis la sortie de son livre début octobre. Un ouvrage dans lequel il dénonce le trafic de drogue, trafic et qui lui a pris un autre frère, tué en 2020 dans un règlement de compte. Le petit frère assassiné hier, lui, était inconnu de la police et de la justice. Benoît Payan, le maire de Marseille, au micro de Julien Langlais.
C'est un drame. Je connais moi personnellement évidemment le grand frère de la victime, Amine Kessassi, qui milite contre le narcotrafic, contre cette gangrène qui tue, détruit la jeunesse marseillaise, mais bien au-delà d'ailleurs, et qui fait du mal. On est dans la sidération de ce qui s'est passé. Son petit frère de 20 ans était en train de passer le concours pour devenir gardien de la paix. Il voulait s'engager pour être policier. Et je crois que s'il s'avérait que cet assassinat est un assassinat d'avertissement, alors on passerait évidemment dans une nouvelle dimension, quelque chose qu'on a jamais connu.
Les deux assaillants ont fui à moto après avoir tiré et sont toujours recherchés. Les habitants de Kiev appelés à rejoindre des abris cette nuit. La capitale a été visée ces dernières heures par une attaque russe massive de drones et de missiles, a déclaré son maire. Selon l'armée, la Russie a frappé des immeubles résidentiels. Le bilan fait état de 11 blessés.
Et les survols de drones se multiplient en Europe.
Des survols illégaux en Belgique, en Allemagne la semaine dernière, mais aussi plus récemment chez nous. En l'espace de quelques jours, au-dessus d'une usine de fabrication de propulseurs d'obus destinée à l'Ukraine, deux survols de drones ont été signalés. Des engins volants repérés aussi au-dessus d'une base militaire près de Reims où s'entraînent des soldats ukrainiens. Avant-hier, enfin, un drone a été détecté au-dessus d'un convoi ferroviaire de Charles Leclerc, près de la gare de Mulhouse. Des enquêtes sont en cours, mais pour l'instant, sans motif d'ingérence russe, Emmanuel Leclerc.
Pour Mulhouse, confie une source militaire, c'est étonnant car des chars Leclerc peuvent être filmés, y compris lors du défilé du 14 juillet. La question est surtout de savoir si le convoi était réellement la cible de ce survol pirate. En revanche, selon cette même source, la base militaire de Mourmelon dans la Marne le 1er octobre dernier était clairement ciblée. Une escouade de trois drones en même temps, c'était inédit. Et les fusils brouilleurs acheminés sur place après une première incursion n'ont pas permis de les neutraliser car ils étaient trop loin. Aucun suspecté les pilotes n'a pu être identifié pour l'instant. C'est de toute façon quasiment impossible de remonter aux auteurs une fois que l'acte a eu lieu, confie un haut cadre du ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, la seule vraie alerte sur cette série en cours, c'est Bergerac. Cette fabrique réputée pour ses poudres d'explosifs survolées à deux reprises en quelques jours. Un tel site ne peut pas être cartographié comme ça selon les différentes sources contactées hier pour des raisons d'espionnage, mais surtout pour éviter un jour des opérations de drones kamikazes. Un scénario déjà envisagé en Bretagne sur des sites d'armement nucléaire par exemple.
Le survol par drone d'un site interdit expose à un risque de 6 mois de prison et 15 000 euros d'amende.
5h07 sur France Inter, en route vers l'Amérique pour les Bleus de Didier Deschamps.
L'équipe de France a battu l'Ukraine 4-0 hier soir au Parc des Princes et valide donc son ticket pour le Mondial 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle est en route pour la planète Mars. La fusée New Glenn du milliardaire américain Jeff Bezos a réussi son décollage hier soir. Elle embarque avec elle deux sondes spatiales pour une mission scientifique de la NASA.
C'était le journal d'Emma Jacob, 5h08 sur France Inter.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Un temps perturbé aujourd'hui, Céline Dacosta.
On aura un ciel plus agité pour ce vendredi avec, dès le matin, un nouveau front pluvieux qui va arriver sur un gros quart nord-ouest. Un ciel couvert encore sur le Languedoc-Roussillon avec des averses qui vont s'intensifier dans la journée sur les Cévennes et de la pluie qui fera son retour sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, on a une autre zone instable qui va se mettre en place avec des averses intenses et parfois orageuses, du Limousin jusqu'au Berry et qui gagneront la Bourgogne, hein, ces averses dans la soirée. Pour le vent, ça va encore souffler, surtout sur la moitié sud du pays. Et pour les autres, alternance de nuages, d'éclaircies, éclaircies un peu plus franches sur l'est du pays. Elles reviendront quand même sur le nord dans l'après-midi ou encore sur l'ouest après le passage de la perturbation. Quant aux températures, un petit peu frais sur l'est, on va le sentir. Ça grimpe l'après-midi avec une moyenne de 16 à 23 degrés du nord au sud.
La météo de Céline Dacosta.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur Inter, rencontre avec un élu de Corse dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout, elle est une cheville ouvrière de l'éducation nationale chargée de veiller à ce que tous les profs aient des élèves et tous les élèves un prof, on l'appellera dans le Finistère. Et puis on prend le pouls de notre démocratie passée à l'état gazeux dans la chronique d'où ça sort. Tanguy Pastureau, lui, maltraite l'info et défend les gens qui s'amusent. C'est à 5h25. Mais avant ça, des Hollandais qui nous font voyager jusqu'en Indonésie. Il s'appelle Nusantarabit et chante Tamat.
Thank you.
Nous sommes tarabités, ce morceau Tamat, ça veut dire la fin, mais pour eux c'est juste le début. Ils seront en concert le 28 janvier 2026 à Paris au Point Éphémère. 5h12 sur France Inter, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin vous nous présentez un élu du bord de mer.
En la personne de Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, devenu le président de l'ANEL, l'Association Nationale des Élus des Littoraux, que j'ai rencontré dans sa commune. Bonjour Jean-Charles Orsucci.
Bonjour, bonjour à tous.
Être maire de Bonifacio, c'est être déjà un mairien.
Oui, même si, comme moi, on est né à Aulnay-sous-Bois, c'est pour vous faire sourire. Mais je suis de père et de mère corse et mon père était bonifacien. Donc évidemment, c'est d'être mairien, c'est aimer la mer, même si, là encore, vous savez que les Corses, ils ont toujours plutôt été sur la montagne que sur la mer, même si les Cap-Corsins, les bonifaciens ont vocation à appréhender le fait marin. Mais oui, c'est forcément avoir une appétence pour les littoraux, ça c'est certain.
Et quand on est le président de l'Association Nationale des Élus des Littoraux, l'ANEL, vous êtes concerné par tous les littoraux métropolitains et bien sûr les littoraux ultramarins.
Évidemment, et on ne va pas oublier nos amis des Grands Lacs, parce qu'ils font partie de l'association, mais c'est vrai que ça a été pour moi une vraie émotion que de me retrouver porte-parole, et c'est vrai que la France, c'est la deuxième puissance au monde en termes de surface maritime, et donc ça nous dépasse des fois, ça dépasse ma petite personne, mais d'avoir aujourd'hui un Méditerranéen pour la première fois dans l'histoire de l'association, d'avoir un insulaire, je crois que c'est aussi ça qui, à mon avis, a séduit les membres de l'ANEL pour me proposer la présidence, que j'ai acceptée avec envie, passion, et de pouvoir aujourd'hui défendre nos amis ultramarins. On a des problèmes, c'est vrai, en Corse, on a des problèmes sûrement en Bretagne, en Normandie, sur la Côte d'Azur, mais quand vous entendez parler les maires de Mayotte, vous comprenez que nos problèmes continentaux sont rien face à des gens qui sont des Français, qui font partie de notre République, et c'est vrai qu'on va devoir les aider. C'est donc une responsabilité.
Jean-Charles Orsucci, aujourd'hui, le grand sujet, c'est l'érosion, la submersion.
Mais évidemment, vous savez, nous sommes, et je suis donc maire d'une commune, la première des préoccupations d'un élu local, c'est la sécurité. Lorsqu'on parle de l'érosion, je ne l'évoque pas dans la dimension est-ce que les gens qui viennent chez nous vont pouvoir continuer à aller à la plage. La question c'est est-ce que les gens qui vivent sur nos territoires ne sont pas menacés de perdre leur appartement permanent? Est-ce que des restaurants, des hôtels ne vont pas devoir fermer? Est-ce que des pans entiers de la population ne vont pas devoir être déplacés? Oui, nous savons qu'il y a aujourd'hui un risque, plus qu'un risque parce que nous le vivons déjà sur nos territoires. Oui, le défi est techniquement très élevé, mais il l'est surtout financièrement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le combat de l'ANEL en ce moment, c'est de créer un fonds spécifique pour relever le défi face au changement climatique et donc à ces difficultés liées à l'érosion, et d'obtenir un financement où la solidarité nationale s'exprime, parce que je crois qu'en réalité, ces territoires littoraux où vivent déjà 10 millions de personnes, mais où bon nombre de Français, d'Européens, de citoyens du monde viennent en villégiature, méritent la solidarité nationale.
Alors là, je parle aux Corses. Qu'est-ce que ça représente, la mer, pour vous?
Ça représente aujourd'hui, et en tout cas, c'est le défi, ça évoque une économie à réaliser, des emplois à créer. Ça évoque aussi notre identité, la pêche artisanale, notre manière de vivre, de nous nourrir, de penser sûrement. Un insulaire, ça a des spécificités quand il réfléchit. Et la mer, ça a été, c'est vrai, le risque des gens qui venaient nous attaquer de par la mer. Mais en réalité, la Corse, si on connaît bien son histoire et si on la regarde, c'est une terre où on a créé une identité locale à prendre en considération dans les politiques publiques.
Parlez-moi de la Méditerranée.
La Méditerranée, nous, c'est notre mère patrie un petit peu. Et d'ailleurs, la Méditerranée, elle n'appartient pas ni à la France, ni à la Grèce, ni à l'Italie, ni à l'Espagne. Parce que le défi, par exemple, passe aux déchets que l'on retrouve dans cette mer Méditerranée qui est en grand danger. Ils ne pourront pas être relevés qu'à l'échelle d'un État, qu'à l'échelle de l'Europe. Ils vont devoir être relevés à l'échelle internationale. Et c'est ça, la Méditerranée. C'est ce berceau qui fait que la commune de Bonifacio est jumelée avec Byblos, qu'elle a vocation à discuter avec la Tunisie ou avec la Grèce. Et c'est ça aussi le défi de demain.
Merci Jean-Charles Orsucci. Un site internet, anel.asso.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Emmanuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin, elles se tournent notamment vers l'étranger. L'Algérie d'abord, après la libération de l'écrivain Boualem Sansal au bout de presque un an de captivité. France-Algérie, l'heure du dégel, s'interroge le Parisien qui voit dans le retour de l'auteur un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux pays, même si des contentieux demeurent, comme la détention du journaliste Christophe Glaise. Le Figaro plus inquiet fait son gros titre, lui, justement sur ces contentieux, la libération de Christophe Glaise, mais aussi le retour dans leur pays des Algériens frappés d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, sans compter la question des visas. Bref, pour le quotidien, la libération de Boualem Sansal par Alger n'est en fait qu'un premier pas. L'humanité, elle, regarde vers le Chili et décrit une gauche unie face à l'extrême droite. Photo en une de Jeannette Jara, costume rose et bras en l'air. Elle porte, dit le journal communiste, un programme de justice sociale et incarne l'espoir progressiste. L'UMA est donc allée la suivre au Chili. Les Échos ont un tropisme bruxellois ce matin. Ils s'intéressent au pacte vert. L'Europe revoit sa copie, titre le quotidien Écho. Comprenez, elle allège les obligations environnementales au profit de plus de compétitivité. Tout cela grâce à une alliance inédite de la droite et de l'extrême droite. Du positif aussi dans vos journaux. Corse, le réveil anti-mafia. C'est la une du journal La Croix avec ses collectifs citoyens qui se forment sur l'île de Beauté. Et Libération offre sa une au nouveau prix Nobel d'économie Philippe Aguillon avec cette promesse. Retraite, budget, dette, taxe Zucman, IA, Chin, RN, les solutions d'un prix Nobel. Comment va notre démocratie? Le politologue Gilles Finkelstein répondait vendredi dernier dans la matinale par une métaphore chimique. Elle est passée de l'état solide au liquide puis au gazeux. Gilles Finkelstein de retour hier dans Zoom Zoom Zen pour décrire notamment cette démocratie gazeuse actuelle. Alors d'où ça sort Cyril Lacarrière?
Imaginez une démocratie qui s'évapore. Plus de grandes structures, plus de militants, plus de partis, de la politique qui se diffuse partout, tout le temps, sans jamais prendre forme. Bienvenue dans cette idée de la démocratie gazeuse. C'est une notion qui va émerger dans les années 2010 avec le politologue Dominique Régnier. S'il ne parle pas à proprement parler de démocratie à l'état gazeux, il en définit certains stigmates. Disparition des corps intermédiaires, syndicats et partis, mise à l'écart des médias traditionnels au profit des réseaux sociaux, chacun parle directement à tout le monde et tout particulièrement à ses supporters, sans filtre et surtout sans questions gênantes. C'est le règne de l'instant et de l'émotion, des mobilisations qui s'enflamment en quelques heures avant de disparaître dans le flot ininterrompu de ce qu'on avale. On like, on partage, on s'indigne, mais on ne construit plus grand-chose de durable.
Et quant à cet état gazeux, il semble être apparu lors d'un dîner d'avril 2016.
Eh oui, un dîner où participait notre invité, qui le raconte en préambule de son livre, un dîner autour d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et qu'il vient de créer son parti En Marche, ni de droite, ni de gauche, disait-il. Un positionnement auquel vous ne croyez pas, mais vous lui dites cette phrase. Notre démocratie a quitté l'état solide, si elle est désormais à l'état liquide, j'ai raison, vous. Et s'il est à l'état gazeux, pardon, c'est toi qui as raison, et c'est le futur président qui avait raison et il a gagné. Mais la démocratie gazeuse, c'est aussi celle des leaders qui captent un moment de l'attention avant de se dissoudre dans le tourbillon médiatique. Alors d'où ça sort la démocratie gazeuse? Eh bien déjà de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef de l'émission Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël, de retour cet après-midi 16h. Il sera question entre autres de 1995 et de la reprise des essais nucléaires en France. 5h20 sur Inter, avant l'humour de Tanguy Pastureau pour une matinée en paix, vous avez rendez-vous avec Stéphane Escher et son titre folk Poussière d'or.
Ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux, l'espoir dans le matin bleu, soudain, vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançant l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombant pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'aube aux lacrymogènes. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi. Quelle chance d'être quelquefois.
C'était Poussière d'or par Stéphane Escher et Philippe Dian, extrait de la playlist France Inter.
France Inter.
Du rock, à présent, non pas en musique, mais avec Tanguy Pastureau, qui fait sa déclaration d'humour et d'amour à ce genre musical.
Georges a donné une interview au magazine Le Point, je suis tellement demandé. Interview intitulée « Panthéon culturel », on m'a demandé mes goûts en matière de culture. Alors j'ai parlé de mes spectacles, de mes bouquins. Là, le journaliste m'a dit « Mais aimez-vous des choses qui ne viennent pas de vous ?» Et je m'y attendais pas, parce que je savais pas que d'autres gens faisaient des trucs. Alors j'ai réfléchi et tout s'est remis en place dans ma tête. L'histoire de l'art, quoi. Les peintures rupestres, puis Michel-Ange, puis Monet, puis John Coltrane, puis Love Amour. Nous sommes en 1988, son single « Et je danse » m'émeut d'autant plus que dans le clip, elle est en mini-short en jean, que j'ai 14 ans et qu'à 14 ans, cette info me suffit amplement. J'ai mûri aujourd'hui, j'ai aussi besoin de voir le soutif. Jusqu'en 1991, où un copain de classe qui a pitié de moi parce que je suis sur Joël Ursule, me prête le CD de Nirvana, Nevermind, et là je tombe dans le rock. Je lis les interviews de Kurt Cobain, qu'on appelle Kurt, il parle de Neil Young, j'écoute Neil Young, il parle de REM, de Pixies, de Black Flag, très peu de Maxime Le Forestier qui n'a jamais percé à Seattle. Moi j'écoute tout ça, je me ruine en CD, mais je m'en fous parce que le look de l'époque, c'est un jean pourri, une chemise de bûcheron qui pue, c'est que pour 5 francs t'es habillé. Et je sais que je le porte pas sur moi, la faute à un physique de mormon constipé, j'ai pas de t-shirt des Guns, je fais pas le signe de la bête, je bois peu de bière, j'ai rien de rock, mais depuis 91 j'en écoute, j'ai lu Rock et Folk longtemps, j'ai écouté chacun de leurs disques du mois sur 25 ans, je suis remonté dans l'arborescence de Nirvana, tu vas chercher les Dead Kennedys, puis logique les Clash, parfois ils virent reggae, donc direction Junior Marvin et Max Romeo, un jour tu sais pas comment t'arrives à Elvis, puis au noir qu'Elvis a repris Big Mama Thornton et tout le reste. Alors je présente mes excuses aux éditeurs qui sont branchés Schubert ou Gims. Moi c'est le rock qui m'a fait, j'en écoute toujours, The Hives, Idols, Shame, Wet Leg. J'écoute d'autres choses aussi, parfois il y a un Étienne Dao qui sort. Dao vient de reprendre du Philippe Pascal sur un album hommage, Philippe Pascal, chanteur de Mark Seberg et Mark Itzad, et on revient au rock. Tout ça pour vous dire qu'il y a 10 ans, bah, j'écoutais pas mal les Eagles of Death Metal et que j'aurais pu être au Bataclan. En plus cette salle je l'aimais bien parce que j'ai vu plein de concerts, dont un en 2006 des Baby Shambles, le groupe qu'avait Pete Doherty. Sur le ticket c'était écrit 20h, il est arrivé à 23, les gens étaient furieux, il y en a qui sont partis et moi je me disais c'est ça aussi le rock, je veux dire si tu veux choper le dernier métro, va voir André Rieu quoi. Hein, plus tard Pete Doherty a expliqué s'être endormi dans un buisson à la sortie du ferry, ce qui est l'acte le plus improbable au monde à égalité avec faire l'amour en plein soie l'élastique. Je crois qu'au fond c'est ça ce qui m'a toujours plu dans le rock, c'est le fait que la société autorise ces gens à faire n'importe quoi. Moi si je casse la télé dans la chambre de mon ébistyle à Angers et que je vomis sur les draps, bon, non. À la réception, on va me faire une réflexion. Oui, je pensais que depuis que les gauchistes avaient été virés, on savait se tenir à France Inter. Mais si, au lieu d'être humoriste à la bande originale, j'étais rocker vieillissant dans un groupe néo-glam, Pastu et les fucking Rebels, là, on m'autoriserait tous les excès. J'en ferais peu, au final, parce qu'une camomille un peu chargée, je suis déjà malade. En fait, j'ai toujours rêvé d'être chanteur de rock, mais mon instinct de survie m'en a préservé. Et il y a 10 ans, j'ai réalisé, nous avons réalisé, alors que nous pensions que seuls les rockers sur scène jouaient leur vie, bah, que le public, parfois, jouait aussi la sienne. Donc j'aurais pu être au Bataclan le 13, mon frère qui est fan des Deftones aurait pu y être le 14 parce qu'il devait y jouer, également le 15 et le 16, le groupe a fini par annuler toute sa tournée derrière parce que le cœur y était plus, parce que le cœur en réalité était brisé. Rock et Folk, que je lis toujours parfois, avait sorti quelques jours plus tard un numéro, le 581, orné d'un ruban noir et ce titre, Tragédie au Bataclan, le rock cible du terrorisme. En photo, Bono d'U2 chanté avec J.C. Hughes, leader des Eagles of Death Metal, parce que les tragédies ont ceci de particulier, qu'elles réunissent les vivants. Il n'y a rien de commun entre U2 et les Eagles, et en fait, bah, si. Et moi, vous savez, je me tâte, bon, j'en parle souvent, mais je me tâte un peu pour 2027. Bon, si j'y vais et que je suis élu, j'aimerais qu'une loi interdisant de tuer les gens qui s'amusent passe. C'est-à-dire, quand on vibre à un concert au Bataclan, quand on danse au Festival Nova, quand on assiste à un match de football, parce que c'est pas passé loin quand même, hein, quand on boit des coups en terrasse, quand on jouit de la vie, parce qu'elle est courte, à part pour Michel Drucker. On devrait vivre, justement. Il faudrait tuer plutôt des personnes qui s'ennuient. Et encore non, parce qu'au Modem ou au Sénat, il y a des gens bien. Le 13 novembre 2015, j'y étais pas, mais franchement, j'ai perdu une part de mon insouciance, et depuis, c'est tout con. Hein. Mais quand je suis dans une salle de spectacle, je check où sont les sorties de secours. 10 ans plus tard, je le fais toujours. Parfois, c'est pour me barrer discrètement. Hein, quand le revisité, dans l'accroche du spectacle, Molière revisité, voulait dire que Sganarelle se mettait à bréquer sur du hip-hop, je me barre. Bien sûr, à la fin, les méchants, ils meurent. Bien sûr, on reboit des coups. Certains ici, plus que d'autres. Hein, y a de la bouche pâteuse. Mais à chaque attentat, c'est un peu d'innocence qui part. Alors quoi, bah, continuons à nous amuser malgré tout. Et le prochain Ibistyle, je vous assure que je défonce la chambre.
Tanguy Pasturo maltraite l'info. Il est à retrouver à partir de 12h10 tout à l'heure dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce débarquement est notre seul espoir. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux.
Loin de Verdun, en quoi la guerre 14-18 fut-elle mondiale ?
France Inter, 14h, Stéphanie Duncan.
Pendant la Première Guerre mondiale, on l'oublie souvent, on s'est battu aussi en Russie, dans les Balkans, en Extrême-Orient et même en Afrique. C'est de ces combats méconnus que nous parlons cette semaine avec l'historien Michaël Bourlet.
Le fil de l'histoire.
C'est tous les jours à 14h sur France Inter.
5h29 sur France Inter, vous l'avez entendu, il parle même quand le rouge est allumé.
Moi-même, je me suis entendu.
Bonjour Marion. Ali Badou vient de me rejoindre dans ce studio, bonjour Ali.
Ça va ?
Et oui, ça va, et vous ?
Parfaitement.
Alors avec, au programme aujourd'hui
à 6h20, vous recevrez Anne Bocandé, qui est directrice éditoriale de Reporters sans frontières à l'occasion des 40 ans de l'organisation. À 7h45, COP30, accord de Paris, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Ce sera le thème du débat écho entre Dominique Seux et Thomas Porcher. Et à 8h20, le grand entretien avec un grand monsieur, Tony Estanguet, triple champion olympique, champion du monde de canoë. On lui doit l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dont il a été le président. Monsieur le président qui publie Pour l'amour du sport aux éditions Calman Lévy et qui viendra nous raconter sa belle aventure.
Merci Ali, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal Emma Jacob. Bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
En pleine COP30, l'Europe, elle, recule dans la protection de l'environnement.
Avec la droite et l'extrême droite à la manœuvre à Strasbourg hier, le Parlement européen a fait marche arrière sur le devoir de vigilance des entreprises. Ces mesures adoptées en 2024 obligeaient les entreprises européennes à surveiller les pratiques de leurs fournisseurs à l'étranger en matière de respect des droits humains et environnementaux. Des obligations détricotées donc aux grandes dames des défenseurs de l'environnement, Rémi Brancato.
Les entreprises européennes ne seront plus obligées de surveiller leurs fournisseurs. Seules les très grosses sociétés seront encore responsables de leurs atteintes à l'environnement ou aux droits humains commis à l'étranger. Fini aussi l'obligation de fournir des plans pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Désastreux pour le climat, dénoncent la gauche et les écologistes, ainsi que Swann Baumier de l'association Bloom.
Nous sommes en pleine COP30 et la droite et l'extrême droite ont demandé de supprimer les plans de transition des grandes entreprises. Les entreprises ont décidé que les multinationales européennes n'auraient pas à répondre de leurs actes devant des tribunaux. C'est un coup majeur qui est porté à l'ambition climatique européenne.
Les ONG qui pointent le rôle des lobbies dans ce détricotage. Quand le rapporteur du texte voté hier, le député de droite suédois Jürgen Warborn du groupe PPE, défend, lui, ce recul de la bureaucratie pour les entreprises.
C'est avec elles qu'on peut vraiment réduire les émissions. Mais si on les effraie, ce qui allait se passer, c'est qu'elles
d'aller dire « Ok, l'Europe n'est pas le bon endroit pour investir, nous irons ailleurs. Il faut travailler davantage avec la carotte qu'avec le bâton. »
Pour être adopté, le texte doit encore être discuté en trilogue avec des représentants du Parlement, de la Commission et des États européens.
En France, le timing se resserre autour du budget 2026. Contrairement à ce qui était prévu, les députés ne siégeront pas ce week-end, une décision dénoncée par la gauche alors que le vote est prévu lundi. Hier, pour la reprise des débats, l'Assemblée a presque unanimement refusé de taxer les retraités. Le gouvernement voulait proposer un montant forfaitaire unique de 2000 euros pour remplacer l'abattement fiscal de 10% dont les retraités bénéficient aujourd'hui.
La capitale ukrainienne visée cette nuit par une attaque massive de drones et de missiles russes.
Les autorités évoquent plusieurs explosions et des incendies à Kiev. Des immeubles résidentiels ont été frappés selon l'armée. Les services d'urgence ukrainiens font le premier bilan d'un mort et au moins 15 blessés. Pendant ce temps, où se cache Vladimir Poutine? C'est l'un des secrets les mieux gardés de Russie. La localisation du président est très rarement connue, hormis lors de rencontres officielles avec d'autres chefs d'État. Une enquête du service investigation de Radio Free Europe lève le doute sur une affirmation niée pourtant par le Kremlin depuis toujours. Le président russe utilise en fait trois bureaux, des pièces parfaitement identiques, mais dans trois résidences différentes. De quoi brouiller les pistes, autant pour des raisons d'image que de sécurité, Sylvain Tronchet.
Le bureau de Vladimir Poutine est bien connu des Russes qui le voient souvent à la télévision. Le président y reçoit les responsables de tout le pays, fait de nombreuses visioconférences. Ce bureau de travail n'est pas situé au Kremlin, mais à Novo-Ogaryovo, dans la banlieue de la capitale, dans la résidence du chef de l'État. Mais en examinant des centaines de vidéos, de photos fournies par le Kremlin, les journalistes de Radio Free Europe ont déterminé que Vladimir Poutine utilisait en fait trois bureaux identiques. L'un à Novo-Ogaryovo, l'autre à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, et le troisième à Valdaï, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans une autre résidence présidentielle. L'enquête montre que de petits détails diffèrent. Un joint sur un mur, la hauteur d'une poignée de porte, le pied d'un meuble télé montrent que le président n'est pas forcément là où le Kremlin dit qu'il est. Vladimir Poutine, qui passait beaucoup de temps à Sotchi pendant la crise du Covid, semble maintenant préférer la résidence de Valdaï, perdue dans la forêt et défendue par 12 batteries antiaériennes. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Des narcotrafiquants ont-ils voulu faire taire le militant marseillais Amin Kessassi? Hier, le frère de cette figure de la lutte contre le trafic de drogue a été assassiné en pleine rue à Marseille. La victime, âgée de 20 ans et inconnue des services de police, a été tuée par balle au volant de sa voiture. Les deux assaillants ont pris la fuite à moto.
L'équipe de France de football qualifiée pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord.
Après leur victoire hier face à l'Ukraine, 4-0, dont un doublé de Kylian Mbappé. Une rencontre marquée aussi par un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le Parc des Princes a observé une minute de silence avant le coup d'envoi. C'est le jeu vidéo de guerre le plus vendu au monde. Call of Duty sort son nouvel opus ce vendredi. Pas moins de 500 millions d'exemplaires ont été écoulés depuis la première version du jeu sortie en 2003.
C'était le journal d'Emma Jacob. Bonne journée Emma. Allez-vous mettre à l'abri car le temps aujourd'hui s'annonce agité. La pluie circule sur l'ouest, des Charentes à la Bretagne, des Pays de la Loire jusqu'en basse Normandie. Elle arrose aussi les Cévennes, les Pyrénées, une zone instable qui se met en place également du Limousin au Berry avec de bonnes averses localement orageuses qui se décalent au fil de la journée sur l'Est. Ce soir, les pluies arrivent sur le Sud-Est avec quelques coups de tonnerre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention au vent aussi fort, surtout ce matin, jusqu'à 120 km/h sur les Pyrénées. Les températures restent douces malgré tout, 3 à 16 ce matin, 16 à 25 cet après-midi, 16 à Brest et Lille, 17 à Strasbourg, 18 à Rennes, 19 à Paris, 20 à Lyon et Clermont, 21 à Nancy, 22 à Perpignan et Marseille, 24 à Biarritz et 25 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et on va groover ce matin dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez de Tyler, The Creator encore.
Mais oui, je vous ai beaucoup parlé de Tyler, The Creator en 2025. Ouais. Avec la sortie de son album Chromacopia, sa tournée folle qui continue d'ailleurs jusqu'en mars 2026 en Amérique du Sud. Et puis cet été, rebelote, Tyler Gregory Okonma publié par surprise, un autre album, on va écouter des extraits. Mmh. Le Californien était samedi dernier sur la scène du Peacock Theater à Los Angeles pour rendre hommage, vous savez, à Outkast qui entrait dans le Rock'n'Roll Hall of Fame. Tyler était de rouge vêtu, je vous le donne en mille, comme sur la pochette de son dernier album qui s'appelle...
Don't
Ne tapez pas sur la vitre. Il commence comme ça, Tyler, à l'aise, sur un petit sample qui vient du Rajasthan. Burn this shit down, turn this shit up. I don't consent, I don't give fucks. You on my dick, nigga, get up. Wipe your lips off while I zip up. I'm a sick pup, girl, I'm nasty. Eat the cream pie in the back of the backseat. Yellow diamonds, black skin, I'm taxi. You can run all you want, nigga, you can't catch me. Big ho, nigga, I'm big ho. Je suis Big Poe. La porte d'entrée du nouvel album de Tyler, The Creator, sert en fait de carte de visite pour un nouvel avatar après les personnages de Tyler Baudelaire, Igor ou Sainte-Chroma. Big Poe, pardon, Tyler, apparaît ici sur la couverture du disque dans un montage photo qui rappelle un peu ceux de Jean-Paul Good, ah vous oui. savez, avec des parties du corps surdimensionnées, les mains, les yeux, la bouche, comme un héros de bande dessinée. La casquette rouge, c'est pas celle de Trump et de ses MAGA fans, au contraire, mais plutôt celle d'un hédoniste qui veut danser, se libérer, se lâcher. C'est ce qu'on fait ici dans cet album qui est disco, funk, électro, Miami bass, tout ce que vous voulez, mais avec toujours un brin de mélancolie mêlé. Tyler, alias Big Poe, nous le dit, il ne rouvrira pas son cœur de sitôt. Oh yeah.
Pourquoi est-ce que je ne trouve pas l'amour, hein? Pourquoi
c'est pas marrant.
Autre extrait du dernier album de Tyler, The Creator, Don't Tap the Glass, qui veut dire quoi en fait?
En général, vous savez, on voit ça sur les aquariums, ne pas taper sur la vitre comme une invitation ici à ne pas toucher son téléphone pendant l'écoute, à écouter la musique et à ne pas le faire chier avec sa vie, comme j'ai pu lire. Okay. Producteur, acteur, graphiste, réalisateur, directeur artistique, maniaque, Tyler, The Creator, se livre parfois un peu trop selon lui. Alors si le message est plus simple dans ce qu'on va entendre, en gros, je te veux et je veux te voir danser, on y entend beaucoup, plein de couches superposées, un peu comme s'il y avait des étages de Pharrell Williams sur du Rick James avec de l'Italo Disco. J'espère que vous aimez le sucre, moi j'adore. Sugar on my tongue. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell your mama.
Sugar on my tongue, du sucre sur ma langue. Vous en reprendrez bien avec le café, Mathieu. Tyler, The Creator, a retrouvé dans la playlist de France Inter. Et vous, Mathieu, on a rendez-vous ce soir.
Mais oui, je vous parlerai notamment d'un groupe argentin qui est programmé dans le festival de Tyler, The Creator. Ça a lieu ce week-end à Los Angeles, Marion, si jamais.
Ah ouais,
c'est Catriel et Paco Amoroso, c'est mes chouchous du moment. Et puis, je vous parlerai de Forever Pavo, de This Is et même de Country.
Ah, chouette.
Et je remets le son. À ce soir, 21h.
À ce soir. 5h41, c'est l'heure du grand reportage de France Inter. Ce matin, il nous emmène dans le Cantal, l'un des territoires de conquête du Rassemblement National. Le parti d'extrême droite fait une percée dans ce département rural, habitué jusque-là à la droite traditionnelle. Aux dernières élections législatives, un candidat RN s'est qualifié au deuxième tour dans les deux circonscriptions du Cantal, du jamais vu. Et pour la première fois, le RN va présenter des candidats aux municipales. Lise Roseveille les a suivis.
En pleine opération de tractage dans les boîtes aux lettres, oui, à Saint-Georges, 1200 habitants.
Bonjour monsieur.
Les rues désertes au milieu des collines, une zone commerciale d'un côté, des terrains agricoles de l'autre.
Je suis Cindy Rodier, donc du coup je suis la candidate du Rassemblement National pour les élections municipales à Saint-Georges. Donc je voulais vous laisser un petit questionnaire, puisque notre objectif c'est de faire vos priorités, nos priorités.
Jean attrape le flyer par-dessus son portail, il a toujours voté au centre, mais ne s'interdit plus de voter RN.
Au municipal, pourquoi pas ? Parce que ça fait des années, effectivement, qu'on a une personne qui est élue régulièrement. Je ne vois pas de changement spécifique dans la commune, hormis une zone commerciale qui s'est montée.
Cindy Rodier sourit. À 22 ans, encore étudiante en marketing, elle compte répondre à la lassitude des habitants. L'an dernier, la moitié a voté RN aux législatives. Elle mise tout sur l'image d'un parti proche du peuple.
On a beaucoup reproché justement au Rassemblement National d'être trop envers l'immigration. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on souhaite mettre en avant. On souhaite vraiment être un parti proche du peuple, proche de ce que les habitants souhaitent.
Un parti qui a maintenant une permanence dans le centre de Saint-Flour. Bienvenue. Des drapeaux tricolores et des photos de Marine Le Pen et Jordan Bardella en guise de décoration. Léo Mézoud, 21 ans, délégué départemental, nous ouvre en costume cravate.
On peut se permettre de pouvoir accueillir des gens, donc c'était une demande qu'on avait. On a rencontré beaucoup d'agriculteurs, par exemple, qui nous ont fait part de leur désarroi face à l'oubli qu'ils subissent au quotidien. C'est des gens qui ont besoin d'une oreille.
Sur la table, des formulaires d'adhésion s'empilent. Jean, eurosceptique assumé et militant depuis plus de 20 ans, le voit bien, il n'y a plus aucune honte à voter RN dans le Cantal.
Bah avant, on hésitait parce qu'on avait peur de pas rencontrer la même sympathie chez les autres. Donc on préférait garder ses idées pour soi. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a pas cette réserve.
Il a fait ses comptes, 300 adhérents dans le Cantal, un record. Une antenne des jeunes du RN vient aussi d'ouvrir. C'est l'un des tout derniers départements à franchir le pas.
Et face à cette montée du RN, Lise, qui se structure dans le Cantal, les jeunes socialistes organisent la riposte.
Ils se mobilisent ici sur le marché d'Aurillac, tract rouge vif à la main, avec écrit en gros « Notre avenir mérite mieux que leurs idées ».
Contre le Rassemblement National, je vous laisse un petit tract.
Si ça peut apporter quelque chose, moi ça me révolte quelque part, ça me rend malade, ça m'empêche de dormir.
Ilan, 19 ans, délégué des jeunes socialistes, hoche la tête. Quelques minutes plus tard, il tente de discuter avec Christian, le visage fermé.
Pourquoi vous votez RN ?
C'est quand je me promène que je vois beaucoup d'étrangers. Il y a des zones de non-droit partout en France, même à Aurillac.
Bah, c'est pas vraiment le cas.
On se dit, le Cantal, c'est loin de tout, la Creuse, il n'y a pas d'émigration. C'est faux,
mais il affirme. Il suffit de regarder les chiffres du Conseil départemental.
Les chiffres, vous ne les connaissez pas, pas plus que moi.
Le jeune militant soupire, il est abasourdi.
J'ai jamais eu de tel retour sur le marché d'Aurillac. Sur le marché de Saint-Flour, oui, c'est un territoire qui est beaucoup plus de droite. Aurillac, c'est historiquement à gauche, mais on va continuer à se battre et ça va le faire.
La jeunesse, en mer, le front.
Juste à côté, Lydia, 21 ans, tracte avec sa fille dans les bras. Aide-soignante à l'hôpital, elle vient de s'engager chez les jeunes socialistes, justement pour résister.
En étant une femme noire, une mère célibataire, maman d'une petite fille elle-même noire, on sait que les risques que ça représente et c'est pas l'avenir que j'ai envie de lui offrir, quoi.
Lydia et Ilan ont été particulièrement choqués par l'ouverture de l'antenne des jeunes du Rassemblement National dans le Cantal.
Mais je peux concevoir que des jeunes dans le Cantal se sentent attirés par le RN parce que c'est vrai que le Cantal est un territoire abandonné dans lequel c'est très compliqué d'être jeune. Mais il faut que ces jeunes soient capables de comprendre que c'est pas une solution, bien au contraire. Il faut qu'on continue à se mobiliser et qu'on tombe pas dans la fatalité de se dire que le RN monte et qu'on peut rien y faire.
Un habitant prend un tract, le regarde et dans un sourire leur lance « Bon courage ».
Cantal, l'offensive du RN, le grand reportage signé Lise Roseveille à retrouver sur le site internet de France Inter.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46, l'heure de contacter notre invitée déjà debout, directrice académique des services de l'éducation nationale dans le Finistère, on dit aussi DAZEN. Bonjour Catherine Moalic.
Bonjour Marion Lourd.
Vous habitez près de Douarnenez, mais vous travaillez à Quimper. Pourquoi êtes-vous déjà debout si tôt ?
Alors d'abord parce que c'est le moment de la journée pour moi où j'ai du temps, où du coup j'ai un petit peu de temps pour moi et puis surtout J'arrive tôt à mon bureau, avant tous les autres, pour préparer la journée qui s'annonce et qui est souvent pleine d'imprévus.
En clair, c'est vous qui avez choisi ce rythme, en quelque sorte, d'arriver aussitôt, en tout cas.
Oui, personne m'y a obligé.
Et il consiste en quoi, votre métier de DAZN? Parce qu'on ne sait pas forcément. Il faut savoir qu'il y en a un par département.
Oui, c'est bien ça. En fait, le DAZN, ou la DAZN, sous l'autorité d'un recteur ou d'une rectrice, il met en œuvre la politique nationale et académique de l'éducation nationale sur un département. Et puis surtout, très concrètement, en fait, il s'assure que tous les enfants sont bien scolarisés, qu'on a bien suffisamment d'enseignants dans les classes, et puis qu'on met en œuvre toutes les politiques prioritaires sur le département.
Et ça concerne beaucoup de gens, parce que vous avez une équipe d'une centaine de personnes, mais aussi les milliers d'élèves et tous les professeurs.
Oui, sur le Finistère, en fait, c'est 150 000 élèves à peu près, un petit peu plus. Et puis, c'est 15 000 personnels, dont essentiellement des enseignants.
Vous vous comparez même à une urgentiste de l'école. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de situations d'urgence que vous pouvez gérer ?
Urgentiste, mais je dirais aussi généraliste.
Oui,
en fait,
les deux.
Urgentiste, c'est parce que, par exemple, je vais arriver tout à l'heure et puis plusieurs situations vont se présenter à moi. La plus finalement classique, c'est un enseignant qui n'a pas pu arriver dans son école pour plusieurs raisons. Et ben, il faut malgré tout que les élèves soient bien accueillis. Et donc, mettre en œuvre un remplaçant. Voilà. Après, il peut y avoir des situations plus dramatiques. On suit, par exemple, toutes les situations de harcèlement quand elles arrivent à nous. Des situations moins dramatiques, mais pour autant, il faut les traiter avec nos partenaires. Par exemple, la chaudière d'un collège ou d'un lycée qui tombe en panne.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'on fait pour bien accueillir les élèves?
C'est vrai que ça peut être embêtant là, à partir du mois de novembre. Donc vous disiez, ça c'est les situations d'urgence, c'est le côté urgentiste, et puis il y a le côté généraliste avec les politiques de plus long terme, en fait.
Oui, oui. Alors les politiques prioritaires, par exemple celles qui concernent la réussite de tous les élèves, et je pense par exemple aux élèves en situation de handicap, c'est important qu'on puisse bien les accueillir et qu'on puisse bien les faire réussir. Et puis il y en a d'autres comme l'égalité filles-garçons.
Et vous vous rendez sur le terrain aussi ?
Alors, pas tous les jours. J'essaie de me rendre le plus possible sur le terrain. C'est toujours des moments heureux, parfois malheureux, mais le plus souvent heureux. Et là, pour le coup, pour moi, c'est un vrai régal lorsque je peux aller à la rencontre soit d'élèves de maternelle jusqu'au lycée. Et les élèves de lycée pro, il y a toujours des choses, des regards, des situations finalement à capter en lien avec ce que font les enseignants sur le terrain.
Alors avant le Finistère, vous avez travaillé, Catherine Moilic, dans d'autres départements. Vous avez travaillé dans les Ardennes, vous avez travaillé dans l'Oise, notamment au moment de la Covid. Ça a été un véritable défi ?
Pour le coup, oui. Hein, on parlait d'une situation d'urgence. Je me souviens, un matin de février 2020, le premier décès français sur le territoire français, c'était un enseignant de l'Oise. Et donc, en quelques minutes, on s'est retrouvé avec la rectrice, l'agence régionale de santé, le préfet, et on a dû finalement commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait venir les profs, les enseignants, les élèves ou pas dans les écoles, comment on met en œuvre ce qu'on a appelé à l'époque la continuité éducative. En fait, c'est comment on assure les cours à distance. Voilà.
Et vous avez réussi.
Et on a réussi. Peut-être qu'on a oublié d'ailleurs ça, hein. Les enseignants ont été extraordinaires, ils ont été debout, et ils ont accueilli en premier lieu les enfants des personnels de santé, et puis l'école est vraiment restée debout à cette époque-là, je regrette qu'on l'ait un peu oublié.
C'est bien de terminer avec une réussite comme ça, Catherine Moilic, parce que vous voulez aussi donner une image positive de l'école, et c'est ce que vous avez fait ce matin. Vous êtes donc directrice académique dans le Finistère, ou je devrais dire médecin généraliste et urgentiste de l'école dans le Finistère. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Avant de revenir au lycée, tiens, justement, pour préparer le bac dans Café Philo, on se lève en douceur au son d'Aretha Franklin. I say a little prayer. Bon réveil sur France Inter. I Say a Little Prayer d'Aretha Franklin, c'était en 1968.
France Inter. Le 5-6.
Au programme de Café Philo ce matin, un retour sur les bancs de la classe. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd. Oui, une nouvelle masterclass pour mieux se préparer au bac philo. Alors on n'a pas besoin d'avoir 17 ou 18 ans pour s'intéresser aux grands thèmes, on dira plutôt du reste aux notions que les candidats au baccalauréat ont à étudier. Vous vous souvenez peut-être, le mois dernier nous avions parlé, ma chère Marion, du bonheur.
Oui.
Avec une classe du lycée Lavoisier de Paris.
Et alors cette fois, qui faites-vous venir et pour évoquer quelle notion philosophique, Patricia ?
Alors, c'est au tour du nouveau lycée de Vincennes et le thème choisi, c'est la liberté. Mmh. Alors, les auteurs qui en ont parlé ne manquent pas, de la Boétie à Primo Levi, de Hobbes à Marx ou à Freud. Le professeur de la classe, Jean-Victor Gresset, a mis plein feu sur Jean-Jacques Rousseau et son contrat social, ainsi que sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, autrement appelée la DDHC. Échange entre Aurel, l'un des élèves, et la philosophe Céline Spector, invitée sur le plateau.
Je pense que la DDHC est un texte fondamental et extrêmement intéressant pour son époque. Je ne sais pas s'il y a un quelconque intérêt ou à s'en enorgueillir aujourd'hui en tant que Français.
Pourquoi tu dis ça ?
Je pense que c'est un outil politique de glorifier la grande idée française de la DDHC. Et je pense qu'en fait, la DDHC n'est pas le résultat d'une grande âme nationale française, mais plutôt d'événements bien réels et bien historiques qui sont arrivés, des événements sociaux très grands.
Céline Spector, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je pense qu'il faut toujours distinguer un texte et ses usages. Et donc, du point de vue de ce texte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de contingences qui ont présidé à son élaboration. Il y a eu de très nombreux manuscrits de déclarations. Condorcet lui-même en a rédigé 3 qui ne sont même pas encore publiés. Donc, il faut être attentif à toute cette contingence. Mais ce qui est très important, c'est ce qu'on voit ici, le préambule et le texte qui nous dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Mmh. Ça veut dire que la tyrannie est illégitime. Et donc, en fait, ce texte, il faut le prendre comme un brûlot. Il faut bien se souvenir qu'il s'agit d'une arme de guerre contre la monarchie absolue, contre les abus de pouvoir, contre l'arbitraire. Et donc, il ne faut surtout pas l'affadir et considérer, comme on le fait un peu aujourd'hui, que ça serait un texte conservateur qui serait là au service d'une idéologie plus ou moins consensuelle. C'est un texte qui n'est pas du tout consensuel, qui est en réalité extrêmement décapant. Et il faut là aussi se souvenir qu'il a été proclamé, non pas comme aux États-Unis en 1776, disons, où c'est Dieu qui octroie les droits naturels, hein, dans le texte français, c'est pas Dieu qui octroie les droits, c'est au fond la nature elle-même, et c'est seulement, comme dit le texte du préambule, sous les auspices de l'être suprême, c'est-à-dire en fait, on a mis quand même la religion à distance.
Et comme il n'y a pas d'âge pour étudier la philo, on vous donne tous rendez-vous ce soir, chers auditeurs, dans l'heure philo pour cette nouvelle masterclass en compagnie de la terminale 3 du nouveau lycée de Vincennes, de leur prof de philo Jean-Victor Gresset, ainsi que de la philosophe Céline Spector, à votre micro, Patricia
Exactement.
Martin. À ce soir.
À ce soir, merci Marion.
France Inter présente
Simone de Beauvoir, femme d'exception.
Laure Adler,
la journaliste, la conférencière, la polémiste, la dramaturge, la voyageuse, la grande amoureuse. Oui, elle fut tout cela à la fois. Des jeunes générations de féministes la découvrent. 40 années après sa disparition, Simone de Beauvoir demeure toujours d'une brûlante actualité.
Simone de Beauvoir, le goût de la liberté, à télécharger sur l'appli Radio France.
Il est 5h57 sur France Inter, c'est l'heure de faire un point sur le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Et ce temps, il est agité, Céline Dacosta.
On aura un ciel plus agité pour ce vendredi avec, dès le matin, un nouveau front pluvieux qui va arriver sur un gros quart nord-ouest. Un ciel couvert encore sur le Languedoc-Roussillon avec des averses qui vont s'intensifier dans la journée sur les Cévennes et de la pluie qui fera son retour sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, on a une autre zone instable qui va se mettre en place avec des averses intenses et parfois orageuses, du Limousin jusqu'au Berry et qui gagneront la Bourgogne, ces averses dans la soirée. Pour le vent, ça va encore souffler, surtout sur la moitié sud du pays. et pour les autres, alternance de nuages, d'éclaircies, éclaircies un peu plus franches sur l'est du pays. Elles reviendront quand même sur le nord dans l'après-midi ou encore sur l'ouest après le passage de la perturbation. Quant aux températures, un petit peu frais sur l'est, on va le sentir. Ça grimpe l'après-midi avec une moyenne de 16 à 23 degrés du nord au sud.
Et merci Céline Dacosta pour cette météo. Mais qui est de retour, devinez, dans le studio pour
mais démarrer c'est Laurence le 6-9
avec moi.
Bonjour Laurence.
Alors Laurence Thomas arrive, elle s'assied pour le journal de 6 heures. Et puis Ali Badou, vous êtes de retour pour ce 6-9.
Oui, comme tous les jours depuis 2 ans et demi.
C'est vrai, mais vous venez tous les jours et c'est à saluer. Est-ce que vous pouvez nous redonner le programme?
Évidemment, à 6h20, votre invitée Marion sera Anne Bocandé, qui est directrice éditoriale de RSF, Reporters sans frontières. L'association fête ses 40 ans. À 7h45, le débat éco du vendredi entre Dominique Seux et Thomas Porcher autour de la COP30 et des accords de Paris. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Nous verrons ça avec nos deux experts. Et puis à 8h20, le grand entretien avec l'un de nos plus grands champions, Tony Estanguet, triple médaillé d'or olympique, champion du monde de canoë. On lui doit également l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il en a été le président et il publie Pour l'amour du sport, un récit passionnant sur cette aventure absolument homérique aux éditions Calmann-Lévy. Rendez-vous avec lui tout à l'heure.
France Inter, il est 6h.